الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Mes chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous asseoir quelques instants pour parler un peu du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une assemblée où des gens se rassemblent, s'assoient pour étudier le dîn d'Allah azza wa jal, pour parler de la révélation, de la grandeur d'Allah, sans qu'il n'y ait des anges qui assistent à ces assemblées et qui rapportent à Allah le Très-Haut que dans tel endroit, tel lieu, tel pays, telle époque, il y a eu telle personne qui se sont réunies pour parler de ton dîn, de ta religion. Et à la fin du majlis, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement satisfait qu'Allah promet que la totalité des péchés de ces personnes sont effacés, sont pardonnés. Ayons la conviction, mes chers frères, qu'à l'issue de cette assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner les péchés qu'on a pu accomplir. Incha'Allah, ça c'est la promesse d'Allah le Très-Haut. Mes chers frères, en islam, nous n'allons pas être longs parce qu'en ce moment, la salat al-Isha est tard. Et donc, il y a des responsables qui doivent fermer la masjid. Donc, on va se limiter à 20 minutes, 25 minutes. Mais Inch'Allah, on va essayer de faire avec istiqama. Il y a eu des interruptions, il y a eu des mariages, il y a eu différentes occasions, c'est le dernier vendredi. Mais Inch'Allah, Allah donne tawfiq de reprendre. On avait démarré wa sama ila til buruj en parlant des étoiles, en parlant de la résurrection et des personnes qui vont témoigner le jour du Qiyam. Maintenant, on passe à un exemple qui est cité dans le surat al-Buruj, c'est l'exemple de Ashab al-Ukhdud. Et Allah Azza wa Jal dit « Qutila Ashab al-Ukhdud ». La traduction « Périssent les gens du Ukhdud ».« Périssent les gens du Ukhdud ». Le Ukhdud, c'est un endroit qui était à la frontière du Yémen et de l'Arabie Saoudite. Il y avait donc un roi du Yémen, hein, apparemment ça remonte environ au 6e siècle, hein, ça remonte à peu près au 6e siècle, on a donc l'époque. On a l'endroit, c'est entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, donc c'est de la péninsule arabe. C'était un roi, un tyran, donc injuste, qui torturait les musulmans. C'était un tyran injuste qui torturait les gens qui osaient proclamer la ilaha illallah et qui faisait en sorte que ces gens quittaient le dîn. Ils voulaient que les gens fassent ridda. Le commentaire dit « Hawalu bil mu'minina an yartaddu an dinihim walakinnahum ajizu » En commentaire, les fassanides disent que ce roi a fait en sorte, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que les personnes qui avaient la ilaha illallah dans leur cœur quittaient ce dîn, quittaient l'unicité, le monothéiste, et ils venaient vers l'adoration des idoles, vers le polythéiste, vers le shirk. Et dans ce verset de surat de Wasama et d'Atil Buruj, Allah Azza wa Jal, dès le départ, donne l'exemple d'Ashab al-Ukhdud. Alors on peut se demander quel est l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal cite l'histoire de ces gens? Les ulama disent que lorsque Allah Azza wa Jal cite l'histoire des peuples précédents qui ont été torturés et persécutés dans leur religion, et pas parce qu'ils étaient riches, pas parce qu'ils avaient découvert un trésor et que les gens essayaient de le reprendre, non. C'est parce qu'ils avaient la ilaha illallah dans leur cœur, comme le prouve le verset qui vient par la suite. وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ Cependant, hein, on va continuer la traduction et puis on va lire ça. Périssent les gens de Ukhdud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Et pourquoi donc ça? À qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange. Alors aujourd'hui, quand nous voyons que dans différentes régions du monde, dans différents pays, il y a des musulmans qui sont massacrés, qui sont torturés, qui sont persécutés uniquement parce qu'ils ont le dîn d'Allah, parce qu'ils se proclament musulmans, nous devons être capables de faire le lien avec les communautés qui nous ont précédés. D'où l'importance de ce genre d'histoire de le Coran. Allah Azza wa Jal veut que les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, eux aussi, prennent acte, qu'ils comprennent qu'avant eux, il y avait des personnes comme eux qui ont souffert pour rester dans le dîn. Et on est à une époque où pratiquer la religion était difficile. Dans les premières années à Makkah avec le prophète alayhi salatu wassalam, pratiquer le dîn était difficile. Il fallait être ferme pour pouvoir rester dans le droit chemin. parce qu'il y avait des pressions, il y avait des humiliations, des insultes, il y avait des tortures parfois, et parfois ça allait jusqu'au meurtre, hein, pour que les personnes quittent le dîn. Et donc, notre prophète, une fois, était près de la Kaaba, il y avait des sahaba qui étaient venus voir le prophète pour lui demander, ben, depuis le temps qu'on est en train de souffrir de notre dîn, pour garder ce iman. Ça, c'est un point extrêmement important. Ce qui fait que les muhajirin avaient un degré supérieur à ceux qui ont embrassé l'islam après la conquête de Mecca ou beaucoup plus tard, c'est que ces gens-là, ils ont accepté l'islam dans les moments les plus difficiles. Ils ont combattu pour rester dans le dîn. Ils ont été torturés et persécutés, comme on a dit, mais le iman a été forgé dans l'épreuve. Ce qui fait qu'ils ont la valeur du iman. Ils ont la valeur du iman, ils comprennent l'importance d'adorer Allah, et ils ont compris que celui qui adore Allah, qui reste dans le droit chemin, qui s'éloigne des péchés, qui reste dans l'obéissance d'Allah sur le salat al-mustaqim, cette personne meurt avec le contentement d'Allah, et Allah est satisfait de lui, Allah le fait entrer au paradis. Ça, ils l'ont compris, c'est vraiment avec des souffrances, ce qui fait que le iman dépassait de loin ceux qui ont accepté l'islam après eux. Donc ces sahaba ils demandent au passant, mais jusqu'à quand on va souffrir pour garder notre dîn? Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal va envoyer son aide? Et là notre prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte l'histoire des peuples précédents qui eux aussi devaient souffrir et lutter pour rester dans leur religion. Il dit qu'on prenait ces gens, on les enterrait jusqu'au cou, on laissait juste leur tête dépasser, et on prenait, comment on va appeler ça, comme des brosses, comme des pailles de fer, et on raclait le dessus de leur crâne jusqu'à enlever les cheveux, la peau, jusqu'à arriver à l'os, et on tuait ces personnes. Ils mouraient torturés. Donc pour cela m'expliquer, c'est des histoires qui sont authentiques. La prophète alayhi salatu wa sallam fait comprendre aux sahaba que ce que nous sommes en train de vivre, sachez que d'autres communautés avant vous ont vécu ça. Et ça, c'est les plus grandes épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer pour une personne. Quelqu'un peut être éprouvé dans sa santé, dans sa famille, dans son travail, mais quand Allah azza wa jalla éprouve quelqu'un, qu'il y a des persécutions pour que la personne quitte le dîn, ça c'est une épreuve difficile. Et celui qui fait preuve de fermeté, de istiqama, qui ne se dévie pas du droit chemin, cette personne a un grade spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sahaba radiallahu anhu majma'in, ils entendent l'histoire de ces peuples précédents, ils comprennent qu'ils sont en train de vivre des jours, c'est pas des jours horribles, mais des jours historiques. Ils comprennent qu'ils sont en train d'écrire l'histoire du dîn. Ils sont en train d'écrire l'histoire de la plus belle des religions, de la dernière des religions, l'histoire des compagnons du plus grand des prophètes. Et que leur histoire sera prise comme exemple jusqu'à la fin du monde. Et c'est le cas. Lorsque nous lisons l'histoire des sahaba, l'histoire de Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, lorsque nous lisons l'histoire d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qui lui aussi a été frappé, défiguré tellement on l'avait frappé, l'histoire de Bilal qu'on ne rappelle plus, tout le monde le sait, l'histoire de Suhaib al-Rumi, l'histoire de Sumayya, radiallahu anha, l'histoire de Ali Yasir, radiallahu anhu majma'in, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il y aura des musulmans sur la terre, on citera, on rappellera le sacrifice de ces gens. Et si eux n'avaient pas été fermes de leur dîn, ils ne s'étaient pas regroupés autour du prophète sallam, s'ils avaient déserté à la moindre épreuve, personne d'autre comme sahaba n'aurait accepté l'islam par la suite. Parce qu'ils se seraient dit que cet homme-là est seul. Le prophète prêche, il y a des gens qui l'ont écouté, mais les gens-là ils se sont enfuis, ils l'ont abandonné. Ça veut dire que sa religion, son message n'est pas clair, n'est pas sincère, n'est pas fiable. Non, les sahaba, malgré les difficultés, sont restés fermes dans le dîn, ce qui fait que d'autres sahaba, d'autres personnes se sont convertis, jusqu'à ce que de 2, 3, 4, 5, ils passent à des centaines, jusqu'à arriver 100 000, le jour de Hajjatul Wada' environ, jusqu'à ce que de nos jours, Alhamdulillah, beaucoup de gens, après les générations de sahaba, ils ont accepté le dîn, ils ont propagé, jusqu'à ce que le dîn arrive jusqu'à nos régions, les endroits, les pays, quels que soient les pays où nous habitons. Donc à la base, il y a eu l'effort de ces premiers sahaba. Donc quand le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelle aux sahaba quel était le sacrifice des gens avant eux, ils comprennent qu'ils sont en train d'écrire les pages de la plus belle des religions, qu'ils sont en train d'entrer dans l'histoire. C'est un sacrifice qui a sa valeur, et la valeur, la récompense n'est qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc l'histoire d'Ashab al-Ukhdud, vraiment très brièvement, quelle était la torture imposée par ces personnes-là aux mu'min billah? Ils avaient creusé un fossé gigantesque. Dans les tafsirs, il dit Hufran mamdoudatan fil ardi kan nahri. C'était comme un fleuve. S'ils avaient créé comme un fleuve, creusé un fossé aussi profond qu'un fleuve, et ils avaient wajama'ul hatab al-kathir, ils avaient rempli ce fossé de brindilles, d'arbres, de branches, ils avaient allumé un feu ardent, et les personnes qui n'acceptaient pas de renier le dîn d'Allah, qui n'acceptaient pas de renier l'unicité d'Allah, ces gens-là étaient jetés dans le feu. Hommes, femmes, vieillards, enfants, bébés, tout le monde. Ces personnes étaient jetées dans le feu. Et pendant ce temps, ce roi ainsi que ses ministres, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Idhum alayha qu'oud. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Idhum alayha qu'oud. Cependant qu'ils étaient assis tout autour. Wahum ala ma yaf'alouna bil mu'minina shuhud. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. C'est-à-dire qu'ils, c'était comme un spectacle pour eux. Ils s'asseyaient et ils voyaient les mu'mines tomber un par un dans le feu, brûler, mourir, brûler vifs. Enfants, femmes, enfants. Les messieurs, les dames, les vieillards et les enfants. Et en commentaire, certains moufassirines, à notre époque, ils disent que regardez ce qui se passe. On ne dira pas le nom des régions, parce qu'on ne parle pas de politique. Hein. Et puis, c'est des sujets délicats. Dans certaines régions du monde, où depuis au moins 50 ou 60 ans, les musulmans sont torturés jour après jour. Ils sont tués, assassinés. On n'appelle pas encore ça des génocides, parce que le monde ne veut pas reconnaître ces crimes comme étant des crimes contre l'humanité, des génocides, mais c'est exactement le cas. Ce sont des génocides, ces personnes-là qui sont tuées tous les jours, uniquement parce qu'ils sont musulmans. Quand nous voyons les dirigeants des autres pays qui restent totalement insensibles à toutes ces injustices, à ces tueries, à ces meurtres, à ces génocides, c'est exactement comme Ashab al-Ukhdud. C'est exactement comme un roi, comme des princes, comme des moulouks qui s'assoient sur des divans autour du fossé où des gens sont jetés dans le feu et meurent pour la ilaha illallah. De nos jours, c'est exactement pareil. Quand il y a des gens qui meurent pour leur religion et que les dirigeants de différents pays qui ne trouvent aucun mal à aller intervenir ailleurs, où ils ont des intérêts à intervenir, des intérêts financiers et des retours financiers pour ça, ils interviennent, ils envoient leurs troupes. Mais quand il s'agit d'un endroit où il n'y a rien à gagner, et que ces personnes-là, ce sont des mu'mines qui meurent, mais ils n'ont pas de bien, alors là, c'est exactement, c'est le même schéma de Ashab al-Ukhdud, et ces gens-là, sont, ils ont été, l'Ashab al-Ukhdud, maudits par Allah Azza wa Jal. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُّهُودِ. Et ils s'asseyaient, ils parlaient, ils discutaient entre eux, en regardant les personnes mourir dans le feu. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. On continue, on avance. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. C'est exactement le scénario qui se passe aujourd'hui, qui s'était passé il y a des siècles et qui remonte avant l'époque, je pense à Salam. La seule raison qui fait qu'ils étaient torturés, c'est ils étaient, et à qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. C'est exactement ce que de nos jours les gens nous reprochent. Lorsqu'on parle d'islamophobie, c'est ce qu'on reproche aux musulmans, c'est pas uniquement l'aspect extérieur. Parce que même une personne qui n'a pas d'aspect extérieur, qui n'a pas de vêtements islamiques, il sera quand même détesté. C'est parce qu'il a le dîn dans son cœur. Il a la ilaha illallah dans son cœur. Et ça, c'est le même scénario qui s'était passé à l'époque d'Ashab al-Ukhdud, mais à notre niveau, avec des atteintes physiques. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappelle qu'à la fin des temps, avant la venue du Imam Mahdi, viendra une époque où il sera difficile, comme à l'époque, presque comme à l'époque des Sahaba, de rester dans sa religion. Par exemple, dans les hadiths citent l'exemple que celui qui veut rester dans son dîn, fermement attaché, ce sera comme une personne qui tient dans sa main une braise, comme quelqu'un qui tient un charbon ardent. C'est ça. Le prophète donne cette image, cette métaphore, que rester ferme de son dîn à la fin des temps, c'est comme tenir une braise ardente dans sa main. C'est quasiment impossible qu'une personne reste ferme dans sa religion, mais celui qui le fait dans ses moments de troubles, de difficultés, il aura une récompense spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans certaines versions, il est dit que juste avant la venue du Mahdi, lorsqu'une personne proclamera « Iza qala al-mu'minu Allah, Allah qutil », il suffira que la personne proclame qu'il adore Allah, que la personne sera tuée. Donc ça sera juste avant la venue de l'imam Mahdi. Donc ce sont des scénarios qui se répètent depuis avant l'époque, depuis l'époque pré-islamique, dans les premiers jours de l'islam et jusqu'à la fin des temps. En commentaire, il dit également que les reproches qu'on faisait à ces gens, c'était uniquement qu'ils adoraient Allah. Mais celui qui adorait Allah azzawajal, qui a vécu de l'obéissance d'Allah, il a parachevé sa vie de ce monde et de l'au-delà. Il a compris pourquoi il a été créé. Il a compris l'objectif de sa création. L'essence de l'homme, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah. Tandis que la personne qui ne croit pas en Dieu ou qui s'est trompée dans sa croyance, cette personne a compris peut-être ce dunya, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, il se débrouille, il s'en sort, il sera peut-être riche, il sera peut-être reconnu, il sera peut-être aimé par les gens, mais la personne a tout perdu parce que la personne n'a pas compris le akhirat. Et le akhirat, c'est l'éternité. Tandis que ce dunya, c'est 70 ans ou 80 années. Celui donc qui n'a pas compris, qui n'a pas eu iman en Allah, même si d'apparence c'est un homme qui a l'air heureux, c'est un homme qui a l'air épanoui. Regardez les grands footballeurs, hein, de Ligue 1 ou de Première Ligue ou de Ligue 1, ou, hein, ces gens-là qui gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent parfois 1 million, 2 millions, 1 million 5 par mois. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont s'ils veulent une jolie femme, ils ont une jolie femme. S'ils en veulent une deuxième, ils en changent. Ils ont de belles voitures, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et nos jeunes, malheureusement, sont fascinés par ces gens. Regardez tous les jeunes qui portent des t-shirts avec le nom de tous les footballeurs. Il y en a même qui écrivent, ils ont pas, ils écrivent caca sur leur. Ils portent un t-shirt, c'est écrit caca. Hein, parce que c'est un grand footballeur, et il a Izzat, il a l'honneur, il a la richesse, il a jolie femme, il a les voitures. Même si c'est écrit caca, mais je porte le t-shirt. C'est un exemple, d'accord? Malheureusement, même vous voyez, dans les pays musulmans, on voit beaucoup de jeunes qui sont, subhanallah, pour eux, ce sont des exemples. Une fois, j'étais dans un McDo à Riyad, dans le mois de Ramadan, c'était 2h du matin, 3h du matin, on voulait faire souhour, j'avais rien à manger, c'est pas très hygiénique, c'est en tant nutritionniste, c'est pas top de dire qu'on était dans un McDo, mais, je vois un jeune qui rentre, saoudien. Je dis, c'est Puyol, le joueur de Barcelone. Il avait des cheveux comme Puyol, le maillot de Puyol, c'était lui. Je me suis dit que c'est attristant qu'on est dans un pays musulman où la charia est appliquée et qu'on voit des jeunes qui sont fascinés à ce point par les gens qui n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur. Mais ils ont l'argent, la puissance, tout ce qu'on a dit, tous les sifats qu'on a dit malheureusement. Ça, c'est une tromperie de shaitan. Wallah al-musta'an. Mais personne n'est à l'abri. Hein, je ne dis pas ça fièrement en disant, moi je n'admire pas ces gens, je ne sais pas un jour mes enfants qu'ils vont aimer. Hein, il ne faut pas cracher sur les gens non plus, dire que eux, c'est des imbéciles. Non. Qu'Allah nous protège, c'est un constat. À La Réunion, c'est le cas. Aller à Maurice, c'est pareil. Aller en France, dans les pays arabes, malheureusement dans le monde entier. C'est parce que la notion de Izza qui a été mondialisée, on essaie de faire entrer dans les esprits que l'honneur, que la réussite d'un être humain, d'un homme, c'est quand il a l'argent et la reconnaissance, quand les gens l'admirent. Mais la notion du akhirat, ça n'existe pas, ça. Donc nous, quand on voit quelqu'un qui a une grosse voiture, une belle maison et il a ce genre de choses-là, on est admiratif. On a l'impression que lui, il est en forme. Lui, il a réussi. Alors que, Allah Musta'an, ça c'est la réalité. Ça c'est notre faiblesse à nous. Nous aussi, parfois, on voit quelqu'un qui a une jolie voiture, il dit, j'aimerais bien, lui, il a réussi dans la vie. Mais si on voit quelqu'un qui est, mashallah, toujours dans la masjid, qui est hafiz al-Qur'an, qui a la science religieuse, qui propage, même s'il n'a pas les moyens, on va dire que oui, mais lui, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à l'école. Donc, il a fait un livre, il a fait Moulissab. Ça c'est notre schéma. Oui, mes chers frères. Vous savez, il y a des gens qui nous regardent de très haut, hein. Il y a des gens qui nous regardent de haut, qui se permettent de juger. Des gens à qui Allah a donné les biens, ils ont réussi dans différents secteurs de la vie. Et pour eux, le alim, le imam, le hafid al-Qur'an, c'est de moune massid ça, c'est de moune n'est pas travaillé pour faire. Malheureusement, c'est la réalité. Ça, c'est un piège de shaitan. Allah musta'an. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit, ils ont, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, c'était quoi leur vengeance, c'était quoi leur méchanceté, uniquement parce que ces gens ont adoré Allah. Alors que celui qui n'a pas adoré Allah, il aura peut-être parachevé l'existence de ce dunya en ayant tous les bienfaits, mais il a tout perdu. Parce qu'au moment où son âme quitte ce dunya, et c'est là que l'éternité commence, il n'a rien fait pour l'éternité, il n'a rien préparé pour l'éternité. De nos jours, il y a des gens qui disent fièrement, je ne crois pas en Dieu. Pour moi, c'est la raison, c'est la logique, c'est les efforts, c'est l'homme. Mais quand Malik al-Maut prend son âme, c'est là que la personne comprend son erreur. Quand les anges de la mort viennent et récupèrent l'âme de cette personne, quand ils voient que ce sont les anges d'Azab, de la malédiction, des punitions qui viennent sous un aspect effrayant, là la personne réalise. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de tawbah possible. Et Allah Ta'ala du Coran, les kuffars, le jour de Qiyamah, dit « Ya laytani kuntu
Touraba, ils auraient souhaité être réduits en poussière. Ces mêmes personnes qui gouvernaient, ces mêmes personnes qui se pensaient forts et puissants, qui vous regardaient de haut, qui vous traitaient d'imbéciles, de gens en décalage avec la société, etc. Eux, le jour de la résurrection, ils auraient souhaité, ils souhaiteront être poussière, disparaître pour ne pas être jugés. Et ces mêmes personnes qui se moquaient, qui critiquaient notre dîn, Allah Ta'ala dit dans Wailul Mutaffifin, à la fin, il dit que, c'est encore le verset, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Ils se moquaient, ils riaient. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَانْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Mais le jour de la résurrection, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ. La revanche. Et ça ne s'appelle pas une revanche. Parce qu'aller dans le dunya, on a subi, on a écouté, on a été opprimé. Mais là-haut, on ne pense pas se venger. Là-haut, quand le mu'mine voit ce qu'Allah lui accorde, il ne pense même plus aux difficultés de ce dunya. Ce n'est pas qu'il y a une préoccupation qu'elle arrive là-haut, il faut m'y finir son race. Non, quand il arrive là-haut, il voit la promesse d'Allah. Quand un mu'mine se voit invité sous l'ombre du trône d'Allah, il ne pense plus à ses ennemis d'avant. C'est fini pour lui. Il sait qu'Allah l'a accepté, qu'Allah va l'ouvrir en grand les portes du paradis. Et ses ennemis, il verra ses ennemis dans l'enfer, dans le Jahannam puni. Mais pour lui, ce qui comptera, c'est la demeure qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée. Mes chers frères, ces notions-là, ça, il faut faire copier-coller. Copier et mettre dans nos cœurs de nos enfants. Que nos enfants ne soient pas impressionnés par ceux qui réussissent de ce monde. Mais que nos enfants deviennent admiratifs des vrais héros. Les vrais héros, c'est qui? C'est pas ces footballeurs, c'est pas ces artistes, c'est pas ces personnes. Les vrais héros, c'est Abu Bakr al-Siddiq, c'est Omar ibn al-Khattab, c'est Uthman ibn Affan, c'est Ali ibn Abi Talib, c'est Musa'ab ibn Umair, c'est Abu Huraira, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Ça, c'est les héros de notre dîn. C'est ces gens-là que nos enfants doivent admirer. D'où l'importance de lire leurs histoires à la maison. Faire en sorte que dans nos maisons, les ayats du Coran résonnent et les récits des Sahaba radiallahu anhum ajma'in sont omniprésents. De nos jours, quand on demande aux enfants de parler des choses qu'ils aiment, il y a Hello Kitty, il y a Anna Montana, il y a ce genre de choses, ils aiment. Ils ont des posters, ils mettent des t-shirts et tout. Allah musta'an. D'un côté, il y a, comment on pourrait dire, cette mondialisation avec hein, toutes ces notions-là qui sont de force ancrée dans l'esprit de nos enfants. Mais nous, si on ne fait pas notre travail pour enlever ces parures de dunya de leurs oreilles, de leur cœur, et on ne fait pas l'effort pour mettre les vraies valeurs de leur cœur, mais c'est nous qui serons perdants. Quand ils vont grandir admiratifs de ces choses de dunya et ne comprendront pas la relation entre les joies qu'ils vivent et le akhirah. Parce qu'un jeune qui a compris quelle est la valeur des joies que je vis. Quand le Prophète dit que parmi les jeunes, les personnes pardon, qui seront appelées sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyamah, Allahumma ja'alna minhum shabun nasha'a fi ta'atillah. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. C'est un jeune qui n'a pas fait les 400 coups comme ses amis. Qui n'a pas allé, il n'est pas allé en boîte, qui n'a pas bu, il n'est pas sorti avec les filles, il n'a pas fait des bêtises comme les jeunes le font. Parce que c'est l'âge où on a le plus de shahwa. C'est l'âge où on a le plus de pulsions. Et puis il y a des transformations chimiques aussi, les hormones, les je ne sais pas tout ça, qui fait qu'il y a des pulsions. On a envie de choses à ce stade-là qui dépassent un peu, il y en a difficilement contrôlable. Ce qui fait que dans cette tranche d'âge, on est vulnérable aux tentations de shaitan. Mais ce jeune qui saura se contrôler, qui saura faire la relation, pas parce que c'est pas qu'il s'éloigne du péché parce qu'on l'observe. C'est pas qu'il s'éloigne du péché parce qu'il y a le moulissab, ou qu'il y a papa, ou il y a dada, il y a grand-père, il y a la famille, il y a la pression familiale, ou il y a l'ambiance, je vis dans une cité, ou alors un quartier de musulmans, je peux pas me permettre de marcher dans la rue avec une fille. C'est pas ça. Parce que quand il va aller à Paris à 19 ans pour continuer ses études, il y aura plus tout ça, donc ce sera la fête. Parce qu'il y a plus les interdictions. Non. Celui qui a obéi à Allah, en comprenant pourquoi il obéit à Allah. C'est-à-dire, il s'est fait à la relation entre les joies qu'il vit et l'éternité, la promesse d'Allah, la promesse de récompense, le jour du Qiyama. Ça, ces notions-là, il faut mettre dans le cœur de nos enfants. S'ils ont compris ça, ils auront tout compris. Même s'ils ne connaissent pas tous les maslahs, de nos joies, c'est le contraire. On les apprend plein de choses en détail. Ils connaissent des maslahs que les adultes ne savent pas. Le maslah quand on est en voyage, le maslah de l'héritage, le maslah, c'est très bien. Mais ça, on ne dit pas ce sont des détails, mais ça, c'est ashiya tafsiliya. Ça, ce sont des choses au cas par cas. qu'on peut traiter en, au cas où si on ne connaît pas, on peut aller ouvrir les livres et voir. Mais les notions de base de iman restent. Pourquoi obéir à Allah? Pourquoi j'adore Allah? Pourquoi je n'ai pas le droit de faire ce que mes amis font? Ça, c'est les notions de base à faire entrer dans le cœur de nos enfants. Donc, وَمَا نَقَامُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et mes chers frères, là, il y a un attribut d'Allah, il y en a pas mal dans le surat, mais l'attribut Al-Hamid. Al-Hamid, c'est traduit par le digne de louange. Quand on dit que Allah, il est le Hamid, c'est que tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit tous les louanges, encore 5 minutes, quand on dit tous les louanges, c'est dans tous les cas de figure. Fissarra et wadarra. Alhamdulillah, qu'on soit dans les bienfaits, dans les ni'mas, on dit Alhamdulillah. Ou qu'on soit dans les ibtilas, dans les difficultés, on dit quand même Alhamdulillah, ala kulli hal. Louange à Allah, tous les remerciements vont à Allah, quelle que soit la situation. Ça, c'est le sifat de Al-Hamid. Et Al-Hamid, le mu'min doit bien comprendre le sens de Al-Hamid. Celui qui a compris que Allah, c'est celui qui crée les situations. C'est lui qui écrit le destin. Celui qui prédestine que telle personne aura tel moment de bonheur à tel moment précis de sa vie, et telle personne, son voisin ou son frère, connaîtra telle difficulté à ce moment précis, Allah, il sait pourquoi il accorde un bienfait à Muhammad et pourquoi il éprouve Ishaq et qu'est-ce qu'il attend de Muhammad et d'Ishaq, parce que les deux sont éprouvés. Wa nabluukum min sharri wal khayri fitna. Le fitna, les épreuves, c'est pas que dans les difficultés. Allah peut éprouver quelqu'un dans les difficultés, mais Allah peut éprouver également une personne par les biens. Vous savez que la personne à qui Allah a accordé, la personne à qui Allah a donné des biens de ce monde, le musulman, même s'il était dans le droit chemin, mais qui avait les bienfaits de ce monde, accédera au paradis 500 années après celui qui était démuni. Ça, c'est les hadiths qui disent que celui qui n'avait pas de bien, qui était pauvre, accédera au Jannah, au paradis, 500 années avant les riches. Et même dans le paradis, il y aura une différence entre ceux qui étaient éprouvés par la pauvreté dans ce dunya. Il dit que les gens qui seront au paradis et qui dans ce monde étaient riches, étaient comblés de bienfaits, ils admireront les demeures des personnes qui étaient pauvres dans ce monde et qui sont dans le Jannah avec eux. Ils admireront leurs demeures tout comme nous, nous contemplons les étoiles. C'est-à-dire qu'ils auront un degré tellement élevé que les gens qui étaient riches de ce monde ne feront qu'admirer les bienfaits. Et celui qui a eu des bienfaits de la part d'Allah, plus on a, plus on sera questionné. En ce jour, Allah Azza wa Jal demandera à chaque personne des comptes concernant les bienfaits. Donc celui qui a une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal, il sait que l'épreuve vient d'Allah. La personne se doit de faire preuve de patience, ne pas s'emporter, ne pas désespérer et donner un sens à l'épreuve. C'est quoi donner un sens à l'épreuve? C'est comprendre que lorsqu'Allah éprouve une personne, Allah attend une réaction. Si la personne s'en remet à Allah, il garde confiance en Allah, il sait que c'est Allah qui enverra la solution, l'ouverture, Allah efface ses péchés, Allah augmente son grade auprès de lui. Certains ulama rahimahumullah disent que Allah accorde à des gens des degrés qu'il ne les aurait pas accordés. Allah accorde à des gens des degrés par le biais des épreuves qu'il ne les aurait pas accordés par leurs bonnes actions. Je répète, Allah accorde à des personnes des degrés uniquement par les épreuves qui les accablent, degrés qu'Allah ne les aurait pas fait atteindre par le biais de leurs bonnes actions. Parce que leurs bonnes actions auraient été insuffisantes pour monter de grade auprès d'Allah. Donc Allah les fait monter par le biais des difficultés, par le biais de ses épreuves. Et donc ce musulman-là, il a compris le sifat de Al-Hamid, que Allah se doit d'être remercié, on doit glorifier Allah dans toutes les situations. Dans toutes les situations de la vie, comme ça me dit, wa alam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Qu'avec la difficulté, il y a la facilité. Que après les moments de patience, Allah Ta'ala envoie toujours son aide. Donc ça, c'est des convictions que le musulman doit avoir dans son cœur. Et là, on va pas développer tout. Il y a deux sifat qui sont cités et faisons une relation entre ces deux sifat et les ashab al-Khudud, Al-Aziz et Al-Hamid. Al-Aziz, c'est celui, hein, le Izzah, celui qui a l'honneur, hein, il dit, d'abord quand on en a le puissant, le digne de louange. Et le Izzah, l'honneur, c'est dans les mains d'Allah. À l'époque d'Ashab al-Ukhdud, ces rois voulaient humilier les Ahl al-Iman. Même si aux yeux des gens ils étaient humiliés, mais aux yeux d'Allah ils étaient honorés. Ça nous fait comprendre lorsque Allah dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Allah accorde l'honneur à qui il veut et Allah humilie. Allah accorde le déshonneur à qui il veut. Maintenant moi je vois la personne dans le izza alors que pour Allah il est de le dhilla. Moi je vois quelqu'un de le déshonneur alors que pour Allah il est honoré. Allah Ta'ala voit cette personne comme ayant un haut degré auprès de lui. Quand il quitte le alam et dunya, le monde du visible, il passe dans le monde de l'invisible, Allah lui accorde son haut degré. Donc l'honneur, le déshonneur, c'est dans les mains d'Allah. Ces gens-là, ils étaient déshonorés, humiliés, mais ils auront un grade exceptionnel auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le deuxième sifat, Billah Al-Aziz et Al-Hamid. Al-Hamid, ce qu'on vient de développer, que Allah, c'est celui qu'on doit glorifier dans toutes les situations. Comme on a dit, dans les moments de difficulté, nous nous en remettons à Allah, nous remercions Allah malgré les difficultés. Quand le Prophète dit, Allah dit, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et c'est les plus hauts degrés de iman, les ulama, rahimahullah, disent dans les aqidah, que les plus hauts degrés de iman, on les atteint quand on s'est fait preuve de patience dans les difficultés. Celui qui a su compléter al-iman bil-qada'i wal-qadwa, al-qadri khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Celui qui s'est complété la foi sur le destin que tout vient d'Allah, c'est celui qui atteint le vrai degré de foi. Parce que faire salat, tout le monde est capable de faire. Jeûner, tout le monde le fait. Il y a le Coran, beaucoup de gens le font de manière exceptionnelle parfois. D'accord ? Mais faire preuve de patience, de fermeté, garder confiance en Allah dans les moments de difficulté, ça appelle à ce qu'il y a dans le cœur. Ça, il faut puiser dans l'énergie du iman. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et celui qui a cette énergie, c'est quelqu'un qui a véritablement iman de son cœur, qui a la confiance en Allah Azza wa Jalla. Donc dans les moments de difficulté, mais Al-Hamid, comme on a dit également, dans les moments de joie. Comme dans l'histoire de Sulayman alayhi salam, lorsque Sulayman demande au djinn de ramener le trône de Bilqis, quand il voit le trône devant lui, il dit Hadha min fadli, il a demandé à des ulama et à des djinns, et lorsqu'il voit le trône arriver, il dit Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Il dit que ça c'est une faveur de la part d'Allah, mais c'est également une épreuve pour moi. Il voit ce qu'Allah lui a accordé comme puissance, comme pouvoir sur différentes créatures qui l'obéissent. Mais il reconnaît que ça c'est une faveur de la part d'Allah, mais ça reste en même temps une épreuve. Et Allah observe, est-ce que je suis reconnaissant ou alors je fais preuve d'ingratitude. Je pense qu'on va s'arrêter à là. Celui qui a compris le sifat d'Al-Hamid, maintenant est-ce qu'on comprend mieux quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen? Quand vous lisez Alhamdulillahi Rabbil Alameen, maintenant pensez à ces paroles. Que quand je dis tous les louanges reviennent à Allah, c'est dans toutes les situations de la vie, Alhamdulillah, tout vient de la part d'Allah. C'est Allah qui prend toutes les décisions. Tous les louanges et remerciements reviennent à Allah. Quelle que soit la situation de la vie, tout est sous contrôle. Tout vient, tout émane des décisions d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il est sage dans toutes ses décisions. En apprenant les sifat d'Allah, nous aurons, inshallah, la compréhension du Coran et la concentration de l'Allah et une foi d'un autre niveau, un iman d'un autre niveau, si on arrive peu à peu à comprendre quels sont les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter à là, inshallah. Et il y avait un autre point, mais il faudra donner des exemples. Quand une personne a compris que tous les louanges reviennent à Allah, on s'attarde encore un petit peu sur Al-Hamid, et il comprend qu'il ne doit pas s'attribuer les bienfaits. Quand je comprends que tout vient d'Allah, je ne dois pas dire que si j'ai réussi, ce n'est pas mon intelligence. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai fait des études. Si j'ai réussi, c'est parce que j'étais sérieux, ou parce que j'ai fait tel effort. Non. On doit toujours savoir que ça vient. Il y a deux exemples dans le Coran. Afara'aytum ma tahrusun et afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Ça, ce sont deux exemples qu'on peut analyser, hein, et inshallah utiliser dans d'autres situations de la vie également par analogie, pour qu'on comprenne que d'apparence, nous voyons que quand il y a un bienfait, nous voyons d'où vient l'origine. D'accord ? Quand quelqu'un réussit son bac, par exemple, je crois que le bac ne vaut plus rien, quelqu'un réussit son examen, il a réussi un concours. D'accord ? Il a eu un travail. Il a passé un concours, il y avait 100 candidats, il n'y en a que 5 qui pouvaient être reçus. Il a réussi, il a eu un travail avec un super salaire et tout. Ben, en apparence, c'est quoi ? C'est ses nuits de révision. Quand ses amis voulaient aller manger au restaurant, aller je ne sais pas faire quoi, lui il voulait pas, il partait pas, il regardait pas match, il n'a pas regardé Marseille Dortmund, il n'a pas regardé Lyon Zagreb, il n'a pas regardé tout ça. Il a révisé, il a appris, il n'a pas vu tout ça. D'accord? Et quand il a les résultats, je dis que subhanallah, il se dit, hein, instinctivement, on se dit que ben, j'ai heureusement un travail. Heureusement, pas écoute Ben Bourika, pas parti quoi avec Zadon Chemin, aller voir le match. Heureusement, on finit par se dire que c'est grâce à mes révisions que j'ai réussi. Ça, c'est humain, ça, comme réaction. Mais mon cher ami, si Allah ne t'avait pas accordé deux jambes qui te soutiennent pour marcher, si Allah ne t'avait pas accordé la santé physique, la santé mentale, si Allah ne t'avait pas accordé un équilibre psychologique, si Allah ne t'avait pas accordé de bons parents qui t'ont donné une éducation correcte, qui t'ont permis d'avoir une stabilité dans ta vie, etc., etc., est-ce que tu en serais là aujourd'hui? Est-ce que tu serais à ton bureau avec tout ce qu'il y a comme confort pour étudier, pour apprendre et pour réussir tes examens? Donc, ne voyons pas que le résultat et l'étape qui précède immédiatement les résultats. Ne regardons pas les 48 heures avant le dénouement. Non, il faut regarder tous les bienfaits qui sont à la base de notre réussite. Et quand nous analysons tout ça, nous nous rendons compte que ces bienfaits-là, ce n'est pas moi qui les ai eus. C'est pas moi qui a œuvré pour ça, tout ça revient à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est important de développer pour que le musulman reste toujours reconnaissant envers Allah. Quand j'accepte d'un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager nos meilleurs. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.